Leçon 4. La conscience professionnelle.
1. Comment se faire une clientèle? Klunk a succédé au docteur Parpalais dans une petite ville où personne n'est malade. Parpalais ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais Klunk est décidé à faire fortune. Il annonce qu'un jour par semaine, il examinera les habitants gratuitement. Naturellement, ce jour-là, sa salle d'attente est pleine. Ah, voici les consultants à la cantonade. Une douzaine déjà? Prévenez les nouveaux arrivants qu'après 11h30, je ne puis plus recevoir personne. Au moins en consultation gratuite. C'est vous qui êtes la première, madame? Il fait entrer la dame en noir et referme la porte. Vous êtes bien du canton?
Je suis de la commune.
De Saint-Maurice même?
J'habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère.
Elle vous appartient?
Oui, à mon mari et à moi.
Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail.
Pensez, monsieur, 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour.
Diable! Vous n'avez pas de domestique?
Dame, si. 3 valets, une servante et les journaliers dans la belle saison.
Je vous plains. Il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner.
Oh non.
Et pourtant vous souffrez.
Ce n'est pas le mot. J'ai plutôt de la fatigue.
Oui, vous appelez ça de la fatigue. Il s'approche d'elle. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit.
Non.
Il l'ausculte. Baissez la tête. Respirez. Toussez. Vous n'êtes jamais tombée d'une échelle étant petite?
Je ne me souviens pas.
Il lui palpe et lui percute le dos, lui presse brusquement les reins. Vous n'avez jamais mal ici, le soir, en vous couchant? Une espèce de courbature?
Oui, des fois.
Il continue de l'ausculter. Essayez de vous rappeler, ça devait être une grande échelle.
Ça se peut bien.
C'était une échelle d'environ 3,50 m posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse. C'est la fesse gauche, heureusement, qui a porté.
Ah oui!
Vous aviez déjà consulté le docteur Parpalais?
Non, jamais.
Pourquoi?
Il ne donnait pas de consultation gratuite.
Vous vous rendez compte de votre état?
Non.
Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie?
J'ai envie.
J'aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux.
Ah mon Dieu, et pourquoi ça?
Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans.
Depuis 40 ans?
Oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle.
Et combien est-ce que ça me coûterait?
Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux.
Oh là là, près de 3000 francs, c'est une désolation, Jésus-Marie.
Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain. Vous pouvez attendre.
Oh là là, j'ai bien eu du malheur de tomber de cette échelle. Et en faisant ça plus grossièrement, vous ne pourriez pas me guérir à moins cher, à condition que ce soit bien fait tout de même.
Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ça ne vous coûtera presque rien. Au bout de quelques jours, vous vous rendez compte par vous-même de la tournure que prendra le mal. Et vous vous déciderez.
Oui, c'est ça.
Bien. Vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture?
Non, à pied.
Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous serez seul autant que possible. Faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez qu'on vous parle. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et à la rigueur, une moitié de biscuits, matin et soir, trempé dans un doigt de lait. Mais j'aimerais autant que vous vous passiez de biscuits. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si vos forces et votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est moins sérieux qu'on ne pouvait croire. Et je serai le premier à vous rassurer. Si, au contraire, vous éprouvez une faiblesse générale, des lourdeurs de tête et une certaine paresse à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise. Et nous commencerons le traitement. C'est convenu? Jules Romain, Knock, 4, 1923, Gallimard.
2. Le respect de la vie. Le docteur Antoine Thibault et son patron Philippe vont visiter une petite fille qui est très malade. Ils rencontrent auprès d'elle un ami des parents, Isaac Studler. C'est un ancien camarade d'Antoine qui avait commencé avec lui ses études de médecine et les a abandonnées.
L'enfant est perdu. Il n'y a aucun espoir de la sauver. Elle souffre terriblement et Studler trouve inhumain de la laisser vivre inutilement encore quelques jours.
Chut, dit Studler. Il jette un coup d'œil du côté de l'infirmière, entraînant Antoine dans le couloir et ferma la porte. Tu es pourtant d'avis qu'il n'y a plus rien à tenter, demanda-t-il.
Rien.
Et qu'il n'y a plus aucun espoir.
Pas le moindre.
Alors, déclara Studler, il n'y a pas d'hésitation. Il faut que ça finisse, au plus tôt.
Je le souhaite comme toi.
Souhaiter ne suffit pas.
Antoine releva la tête et dit fermement. On ne peut pourtant rien de plus.
Si.
Non.
Le dialogue avait pris un ton si tranchant que Studler se tut quelques secondes. Ces piqûres, reprit-il enfin. Je ne sais pas moi, peut-être qu'en forçant la dose...
Antoine coupa net. Tais-toi donc. Une minute passa. Tais-toi, répéta Antoine, moins brutalement. Je te comprends, ce désir d'en finir, nous le connaissons tous, mais ce n'est qu'une tentation de débutant. Avant tout, il y a une chose, le respect de la vie, parfaitement. Le respect de la vie. Si tu étais resté médecin, tu verrais les choses exactement comme nous les voyons tous. La nécessité de certaines lois, une limite à notre pouvoir, sans quoi...
La seule limite quand on se sent un homme, c'est la conscience.
Eh bien, justement, la conscience professionnelle. Mais réfléchis donc, malheureux, le jour où les médecins s'attribueraient le droit, d'ailleurs, aucun médecin entendu, Isaac, aucun...
Eh bien, jeta Studler, farouche, vous êtes peut-être de grands pontifs, mais pour moi, vous n'êtes que des gens foutres.
Il recula d'un pas, et la lumière du plafonnier éclaira soudain son visage. On y lisait beaucoup plus de choses que dans ses paroles. Non seulement un mépris révolté, mais une sorte de défi, presque une menace, et comme une secrète détermination.
Antoine quitte la jeune malade et, rentrant à pied chez lui, il pense à sa discussion avec Studler. Seul, il n'est plus si sûr d'avoir eu raison.
Certaines phrases qu'il avait prononcées le hantaient. Il avait dit à Studler, le respect de la vie. On ne se méfie jamais assez des locutions consacrées, le respect de la vie. Respect ou fétichisme. Il crut entendre la voix nasillarde de Philippe. Pas le droit, mon petit, pas le droit. Antoine s'insurgea. Le droit, voyons. Vous savez comme moi ce qu'elles valent, ces notions de droit, de devoir. Il n'y a de loi que les lois naturelles, celles-là, oui, inéluctables. Mais ces prétendues lois morales, qu'est-ce que c'est? Un faisceau d'habitude implanté en nous depuis des siècles. Rien de plus. Autrefois, il est possible qu'elles aient été indispensables au développement social de l'homme. Mais aujourd'hui, peut-on raisonnablement conférer à ces anciens règlements d'hygiène et de police, je ne sais quelle vertu sacrée, le caractère d'un impératif absolu? Roger Martin du Gard, Les Thibault, La Consultation, 1928, Gallimard.
Vocabulaire.
La clientèle.
Succéder à.
Être décidé à faire quelque chose.
Faire fortune.
Gratuitement.
La salle d'attente.
Un consultant.
La cantonade.
Un arrivant.
Un canton.
Exploiter.
Un taureau.
Une jument.
Un poulain.
Une chèvre.
La basse-cour.
Un valet.
Une servante.
Un journalier.
Plaindre.
Se soigner.
Souffrir.
Une échelle.
Palper.
Percuter.
Presser.
Les reins.
Une courbature.
Se pouvoir.
Affirmatif, affirmative.
À la renverse.
La fesse.
Coûteux, coûteuse.
Guérir.
Traîner.
Un veau.
Une désolation.
Jésus.
Marie.
Du jour au lendemain.
Grossièrement.
Tout de même.
Mettre quelqu'un en observation.
La tournure.
Se décider.
Tâchez de faire quelque chose.
Autant que possible.
Le rideau.
Un verre d'eau de Vichy.
À la rigueur.
Le biscuit.
Trempé.
Un doigt.
Un doigt de.
Ordonner.
Gaillard, gaillarde.
Éprouver.
Une faiblesse.
Une lourdeur.
Le traitement.
C'est convenu.
Abandonné.
Perdu.
Inhumain, inhumaine.
Inutilement.
Chut.
Être d'avis que.
Tenter.
Moindre.
Fermement.
Tranchant, tranchante.
Se taire.
Une piqûre.
Une dose.
Une tentation.
Un débutant.
Parfaitement.
Une limite.
La conscience.
S'attribuer.
Farouche.
Un pontife.
Un Jean Foutre.
Le plafonnier.
Révolté.
Un défi.
Le fétichisme.
Nasillard, nasillarde.
S'insurger.
Inéluctable.
Prétendu.
Moral.
Un faisceau.
Implanté.
Raisonnablement.
Conféré.
L'hygiène.
Sacré.
Un impératif.
Absolu.
Aux grands mots, les grands remèdes.
Lecture et compréhension. Le fameux SOS. Il y a dans Paris, la nuit, des petites voitures qui sillonnent des rues éclairées ou désertes, avec à leur bord un homme, généralement jeune, médecin de son état, et que l'on appelle par téléphone en cas d'urgence. C'est le fameux SOS.
L'autre soir, à 9h, j'en avais appelé un pour une piqûre et, un peu gêné de l'avoir dérangé pour si peu de choses, je lui offris un rafraîchissement. C'était un homme jeune, sympathique, et qui, après avoir consulté sa montre, accepta volontiers.
Au moins une fois par nuit, il est appelé par un homme ou une femme, seul, dans un appartement de 10 pièces, comme dans un garni minable, quelqu'un qui lui dit « Je n'ai rien, je n'ai besoin ni de gouttes, ni de piqûres, ni de médicaments, mais je n'en pouvais plus. J'ai besoin de parler et que l'on m'écoute et qu'on me réponde. Cela veut dire, j'ai peur, tellement peur d'être seul, que je me moque d'être ridicule, de vous déranger et de perdre 100 francs. Donnez-moi 10 minutes de votre temps. »
Dans ces cas-là, ce médecin, comme ses confrères d'ailleurs, s'assoit et parle 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure s'il le peut.